Chapitre 4. Depuis 2 ans, Fong souffrait du syndrome d'immunodéficience de l'âge adulte, le SIDA-A. Une maladie rare, aux symptômes semblables à ceux observés lorsque le SIDA se déclare chez les personnes infectées par le VIH. Mais, contrairement au SIDA, le syndrome d'immunodéficience de l'âge adulte n'était pas dû à un virus, ne se transmettait pas et touchait sans raison apparente certains individus d'origine thaïlandaise ou taïwanaise âgés d'une 40aine d'années. On soupçonnait une cause génétique. Il n'y avait pour le moment aucun traitement. Trop peu de cas, pas assez de recherches ni d'argent. Le SIDA tuait des millions de personnes. Le SIDA-A, c'était une goutte d'eau dans l'océan. Globalement, tout le monde s'en fichait. Fong n'avait plus de système immunitaire. Il était nu face aux microbes. La moindre gastro-entérite, le plus petit virus venu de l'extérieur, et il se retrouvait hospitalisé là où, triste ironie du sort, il avait travaillé. Le service des maladies infectieuses de Saint-Louis. Un jour, un simple rhume rapporté par Amandine avait viré en infection respiratoire aiguë et failli le tuer. La jeune femme avait mis des semaines à se remettre de sa bêtise. Fong refusait de rester à l'hôpital, même s'il savait que l'extérieur finirait par avoir raison de son organisme si on ne trouvait pas de traitement dans les prochaines années. Suite à l'incident du rhume, Amandine avait décidé qu'il devait déménager, trouver un air un peu plus sain et un environnement qui permettrait à Fong d'être en sécurité. Ils avaient revendu leur appartement parisien pour vivre au bord d'une forêt et acheter un loft spécialement réaménagé. Un architecte, au courant de la maladie de Fong, s'était chargé des plans particulièrement complexes. Couloirs labyrinthiques, parois étanches, filtres purificateurs, beaucoup de plexiglas, serrures à toutes les portes, entrées blindées, alarmes, un vrai bunker. Amandine avait toujours eu peur d'un cambriolage, d'une agression qui aurait pu être fatale pour son mari. Des microbes transmis par les cambrioleurs, une plaie qui s'infecte. Évidemment, Fong ne pouvait plus exercer son activité, ni faire de sport à l'extérieur, ni avoir de contact non contrôlé avec le monde du dehors. Fini pour lui le cinéma, les visites dans les musées et même le shopping. Bien trop de microbes y circulaient. Aujourd'hui, si la jeune femme tombait malade ou soupçonnait le moindre début de rhume, ce qui arrivait plusieurs fois par an, le couple vivait en quarantaine, ne se côtoyant que par vitres interposées et communiquant au moyen d'amplificateurs sonores. Fong gardait sa chambre, son salon, sa salle de bain et la grande cuisine. Elle prenait le reste, basculant de l'autre côté des vitres par le jeu alambiqué des couloirs. Il lavait son linge, Amandine le sien. Quand il lui offrait des fleurs, c'était un porteur qui les lui remettait, tandis que Fong se tenait à 1 mètre derrière la vitre. Amandine avait failli quitter son job, elle aussi, quand elle avait su pour Fong. En étant au contact des microbes, ne mettait-elle pas la vie de son mari en danger? Puis, elle avait réfléchi, et c'était plutôt le contraire qui se produisait. Manipuler des micro-organismes dangereux et intervenir sur des zones à risque où le danger de contamination était omniprésent la contraignait à une vigilance de chaque seconde. Ils étaient sa colère, son obsession. Elle s'était jurée qu'aucun virus ni bactérie ne tuerait Fong tant qu'elle vivrait à ses côtés. Elle veillait sur lui autant que sur sa propre chair, le préserver coûte que coûte. Cette nuit-là, elle le laissa s'endormir. Il était souvent très fatigué. Lui caressa tendrement la joue, puis se rendit dans son bureau où elle potassa encore un peu son sujet de recherche. Un truc concernant la variabilité génétique et phénotypique d'un certain type de bactéries, au nom imprononçable, que seule une poignée d'experts en microbiologie était capable de comprendre. Amandine avait pour objectif, d'ici à 1 an ou 2, de passer son habilitation à diriger des recherches. Pour l'obtenir, il fallait, dès le plus jeune âge, avoir développé un goût pour la recherche, s'être démarqué de ses camarades, avoir contribué à la publication d'articles. C'était son cas. Elle avait toujours aimé comprendre le monde et tenter, à une échelle microscopique, de le faire avancer. Mais la préparation de l'épreuve était titanesque. Elle l'usait psychologiquement. Plus tard, elle reçut un email provenant de la boîte privée de Claude Bay, le contact à l'OMS, envoyé à 0h24. Il avait pour objet les signes. Elle l'ouvrit et le lut. « Bonsoir Fong et bonsoir Madame Fong. Heureux d'avoir eu quelques nouvelles par téléphone, il faudra que l'on se voie si un jour tu passes par Genève. Il m'arrive aussi de venir à Paris, je te tiendrai au courant. Alors voilà les nouvelles pour tes signes. Les trois migrateurs de la réserve du Marcanterre ne sont pas les seuls à avoir succombé. Quatre autres signes ont été découverts à la frontière des Pays-Bas avant-hier. Trois hier matin, à la réserve naturelle du Zwin, en Belgique, un en Allemagne, mercredi soir. Autrement dit, le long de leur couloir de migration. Le signe mort en Belgique était bagué et porté un émetteur GPS qui appartient à la Wildlife Conservation Society, une ONG basée à New York. Cet appareil permettra sûrement de savoir où les oiseaux ont attrapé la maladie et d'en identifier le ou les foyers. On est évidemment sur le coup. Pour le moment, aucun résultat d'analyse de ces signes n'est encore remonté des différents centres de référence grippe. Nous attendons. En tout cas, sache donc qu'une belle petite cochonnerie est peut-être en train de se balader tranquillement dans les intestins de tes chers cygnes sauvages et dans leur déjection, et elle les tue. Veillons au grain. Je te tiens au courant en temps réel de tout ce qui se passe. Je te dois bien ça. Naturellement, ce mail reste caché dans un coin de ton ordinateur. Claude. PS. Tu bosses dans quoi maintenant, tu m'as dit ? J'ai pas bien compris. Amandine rabattit son écran, fatiguée. Tous ces oiseaux morts, c'était étrange. Il fallait attendre les résultats. Si la présence de H5N1 était avérée, l'Union européenne, l'OMS, l'IVE, l'Institut de veille épidémiologique, savaient exactement comment agir. On avait des plans de prévention dans de nombreux domaines, biotox, vigipirate, orsec, y compris la grippe. On passerait donc en phase 2 du plan pandémie grippale, même si à ce stade, le mot pandémie n'avait pas vraiment sa place. On parlait plutôt d'alerte pré-pandémique, qui consistait essentiellement à prendre des précautions et communiquer pour éviter la propagation du virus aux élevages domestiques, comme dans le Marcanterre. Les plans d'eau concernés seraient sécurisés, les services vétérinaires sensibilisés. On informerait les éleveurs travaillant à proximité des zones à risque. Au moindre cas suspect, l'éleveur devait le signaler et tout l'élevage serait abattu. Pas de demi-mesure avec les virus de type influenza. Ces microbes étaient trop imprévisibles et dangereux. Il suffisait de penser à la fameuse grippe espagnole. Les scientifiques appelaient ce virus encore aujourd'hui le virus tueur, qui avait anéanti des millions de personnes en 1918, tuant plus que la Grande Guerre. Ce type de fléau pouvait surgir à n'importe quel moment. La jeune femme alla se laver les mains dans sa salle de bain et retourna dans le salon pour éteindre. Elle jeta un coup d'œil à la dizaine d'origami qui peuplait la table. Son regard s'arrêta sur le cygne blanc qui déployait ses ailes comme pour s'envoler. Et peut-être emmener vers d'autres horizons une saloperie de virus.